Bien-aimés frères et sœurs en la foi, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une lecture assez longue dans le livre de la Genèse, au chapitre 26 et au verset 1er. Notre lecture va être longue, je vais faire la lecture lentement pour bien nous imprégner du message de Dieu. Genèse 26, verset 1er. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, et séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. » Je poursuis la lecture au verset 12. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les serviteurs les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézec, un nom qui signifie « dispute », parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Sitna dérive d'un mot qui signifie ennemi, adversaire. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Rehoboth dérive d'un mot qui signifie largeur, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Beer-Sheba signifie « puits du serment ». Vous le sentez bien à la lecture de ce chapitre, nous sommes là devant une histoire de puits. Posséder un puits dans ce temps-là était un véritable trésor. L'eau, c'est la vie. Jésus le savait. Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises, parlant des choses spirituelles, il a employé l'image de l'eau. Dans Jean, chapitre 4, versets 13 et 14, s'entretenant avec une femme samaritaine au bord du puits de Jacob près de la ville de Sichar, Jésus dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et dans Jean chapitre 7, les versets 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, il s'agissait de la fête des tabernacles, Jésus se tient debout et il s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Mais revenons à notre texte. Abraham, le père des croyants, n'était plus. Et c'est maintenant le temps d'une autre génération. Les puits d'eau creusés du temps d'Abraham ont été attaqués par les ennemis, les Philistins. Autrement dit, la génération présente se trouve devant un manque. Elle a perdu des bénédictions, des possessions. Elle s'est fait dépouiller de certaines richesses. Un renouveau, une reconquête de ce qui avait été saccagé était donc nécessaire et indispensable. Isaac, le fils d'Abraham, va entrer dans ce temps de renouveau. Et il est important de le suivre pas à pas dans ce chapitre, et c'est ce que je vous propose de faire avec moi maintenant. Tout d'abord, Dieu va l'encourager à s'accrocher dans un temps difficile. Et je le dis d'emblée, mes frères et sœurs, Dieu veut nous encourager, les uns et les autres, à nous accrocher dans un temps difficile, et je vais m'expliquer là-dessus. Le temps difficile pour Isaac, c'était la famine. Nous avons lu en effet au verset premier de notre chapitre, « Il y eut une famine dans le pays. » Ce qui veut dire que l'on n'avait plus la nourriture nécessaire pour vivre. Les temps de famine engendre toutes sortes de tentations. Pour Isaac, c'était le désir de fuir en Égypte, comme l'avait fait d'ailleurs Abraham son père autrefois. Et ce désir de fuir en Égypte était certainement suffisamment fort et dangereux pour Isaac pour que Dieu prévienne ce faux pas. Nous avons lu en effet, l'Éternel lui apparut, au verset 2 de notre chapitre. Et il dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. » Vous remarquez que ce soit pour Abraham ou pour Isaac, deux générations différentes, mais qui se trouvent devant les mêmes difficultés, les mêmes épreuves, avec les mêmes tentations de réagir sous les impulsions de la chair, fuir en Égypte, au lieu de marcher selon l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu déclare « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Premier épître de Pierre, chapitre 5, les versets 8 et 9. Le diable, l'ennemi des enfants de Dieu, celui que la Bible nomme votre adversaire, agit de la même manière, avec les mêmes desseins à l'égard de nos frères dans le monde. Prenons donc courage et imitons ceux et celles qui tiennent ferme dans les voies de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le texte de l'apôtre Pierre que je viens de vous lire est suivi de cette promesse juste après au verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. L'Église de Jésus-Christ fait aujourd'hui l'expérience d'une sécheresse spirituelle dramatique. Des troupeaux entiers de brebis affamées réclament à leurs bergers une nourriture consistante leur permettant de se fortifier dans ces temps troublés. Malheureusement, bien trop souvent, hélas, on ne leur offre qu'un semblant de spiritualité, et encore. La prédication devient pauvre. Christ, ce pain savoureux, ce pain de vie descendu du ciel et qui donne la vie au monde, n'est plus le centre du message pastoral. Le ministère de la parole devient le ministère de la philosophie religieuse, de la psychologie, de l'histoire, des sciences. La prédication est truffée d'anecdotes amusantes, histoire de distraire l'auditoire, de le faire rire, pour qu'il ne s'ennuie pas à l'écoute d'un vieil évangile que l'on nomme démodé. Le prédicateur, évoluant non plus sur une modeste estrade, mais sur une véritable scène de salle de spectacle, devient un showman applaudi, adulé par les amateurs de Carouge. Quant à l'Esprit de Dieu, quant à la vie de l'Esprit, elle s'éteint, ou plutôt, on l'éteint. Les dons spirituels n'ont plus leur place, la musique est omniprésente d'un bout à l'autre du culte, pour accompagner les cantiques, ça va de soi, mais pas que. Elle est là pour accompagner la prière du pasteur, la prière des chrétiens, les louanges des chrétiens. L'Esprit de Dieu n'a plus son mot à dire. Alors, le credo de l'Église est toujours là, les points de doctrine aussi, mais la réalité est tout autre. À l'heure actuelle, les églises sont infestées par de terribles fléaux, tels que l'adultère, le divorce, un évangile du style Nouvel Âge, une musique et des modes d'expression qui sont empruntés au monde, mais sur lesquels, n'en déplaise à beaucoup, il ne peut y avoir, et pour cause, l'onction puissante de l'Esprit de Dieu. Ce que l'on peut entendre du haut de nos chairs aujourd'hui n'est, dans bien des endroits, qu'un aimable verbiage. Les sermons n'ont aucune consistance, et il n'est pas difficile de ce fait de les avaler. Et les âmes, affamées de la parole de Dieu, le pain des grands, le pain des forts, souffrent de la famine spirituelle. Les chrétiens quittent la maison de Dieu, inassouvis, faibles et le ventre creux. Peu à peu, la fatigue les gagne. C'est la fatigue venant du fait d'avoir à se traîner sans cesse jusqu'à une table vide. Et cette famine spirituelle, en bien des endroits, ce n'est pas vrai partout, heureusement, gloire à Dieu, mais cette famine spirituelle dure depuis des années déjà. Vous savez, plus une personne s'éloigne de Jésus, la source de vie, plus la mort s'infiltre en elle. Il en est de même pour les églises et leur ministère, lorsqu'ils perdent tout contact avec cette source de vie. Et bon nombre se dégradent lentement depuis un certain temps. Voilà pourquoi tant d'âmes crient à Dieu avec le désir ardent de rencontrer une église vivante, c'est-à-dire une église vivant de la vraie vie d'en haut. Mais cette situation n'est pas ce que Dieu a prévu pour son peuple. Je crois que Dieu a en réserve du pain pour le monde entier, je pense au domaine spirituel, bien évidemment. Et le pain qu'il offre est plus qu'une simple substance, c'est une nourriture pour la vie en abondance dont a parlé Jésus. Comme pour Isaac, la tentation pour ces chrétiens qui souffrent de famine spirituelle, la tentation de descendre en Égypte, je mets le mot Égypte entre guillemets, vous me comprenez, cette tentation est grande. La famine spirituelle qui sévit dans la maison de Dieu aujourd'hui amène les croyants à se détacher de l'Église pour aller trouver ailleurs ce qui pourrait satisfaire leurs besoins les plus profonds. Mais revenons à Isaac. Dieu lui fait alors 6 promesses dans les versets 3 et 4 de notre chapitre. La promesse de sa présence, je serai avec toi. La promesse de sa bénédiction, et je te bénirai. La promesse de ses dons et de ses richesses. Je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. La promesse de sa fidélité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. La promesse de la prospérité, du développement, de la croissance. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et la promesse d'une bénédiction donnée aux autres au travers d'Isaac. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Eh bien, que les croyants souffrant de la famine spirituelle qui m'écoutent aujourd'hui prennent courage. Bien-aimés frères et sœurs, votre force est dans le Seigneur. Restez dépendant de lui. Placez-vous docilement aux pieds de Jésus pour recevoir ses instructions, ses conseils, sa direction, dans une communion intime avec lui. Ne succombez pas à la tentation d'aller chercher en Égypte, entendez le monde et ce qu'il offre de misérable et de pitoyable, quelque nourriture terrestre qui ne vous satisfera jamais, mais qui amènerait plutôt bien des souffrances et des misères dans votre vie et dans votre foyer. Une seconde pensée apparaît dans notre texte. C'est une exhortation à travailler dans un temps difficile. Nous lisons en effet au verset 12, « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Isaac a bien fait de s'accrocher et de ne pas fuir en Égypte. Vous savez, la fermeté, la constance, la foi dans les promesses du Seigneur sont des valeurs sûres. Isaac a semé dans ce pays, pour reprendre l'expression de la parole de Dieu. Il n'a pas semé ailleurs, dans un autre pays, là où Dieu n'était pas. Il a semé avec courage et avec foi. Et le résultat, la parole de Dieu nous dit, cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Ah, nous sommes loin du temps du prophète Agé où le peuple de Dieu ne se préoccupait nullement de l'œuvre de Dieu et de l'état de la maison de Dieu, mais où chacun, très égoïstement, s'occupait de sa propre maison et de ses petites affaires. À ce peuple-là, l'Éternel dit « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Agé chapitre 1er verset 6. Je vous dis, mes frères et sœurs, qu'un temps de renouveau vient pour les croyants fidèles au Seigneur. Qu'il soit plein de courage, de foi, qu'il ne regarde pas au temps et aux circonstances défavorables, mais qu'il sème la bonne semence de tout leur cœur en s'appuyant sur Dieu. Qu'il le fasse dans ce temps actuel si difficile, avec les moyens mis à leur disposition, qu'ils sèment avec la ferme espérance de moissonner, parce que le Seigneur est fidèle pour bénir leur travail et faire croître la semence qui aura été jetée dans les cœurs. Notre texte de Genèse 26 nous enseigne encore une autre leçon. Il nous pousse à l'effort pour revenir au jour d'autrefois. Les versets 15 et les versets 18 disent ceci, je vous les relis. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. L'Esprit de Dieu appelle l'Église à creuser à nouveau les puits d'autrefois. Il appelle les enfants de Dieu à un réveil, un retour aux sources de la vie, à l'eau vivifiante qu'il peut, lui, déverser à flot sur eux. Un réveil ayant le vrai caractère de l'Esprit de Dieu ne consiste pas à creuser des puits ailleurs, sur une terre étrangère, mais de creuser à nouveau les puits de nos pères, ces puits comblés de poussière par l'ennemi. Isaac et ses serviteurs n'ont pas craint d'être vieux jeu. La parole de Dieu déclare « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Les voilà, les anciens puits. Ce sont ceux-là qu'il faut creuser à nouveau. Ils ont été comblés par la poussière de cette terre. Le doute, l'incrédulité, la tradition, la religion froide, morte, la tiédeur, l'intellectualisme, l'argent, les honneurs, pour ne parler que de cela parce qu'il y a encore bien d'autres choses. Un réveil, selon le Saint-Esprit, un vrai renouveau, ce n'est pas la recherche, la création, la mise en place de nouveautés. C'est un retour aux anciens puits. C'est tellement vrai que même les noms n'ont pas été changés du temps d'Isaac, du temps de la nouvelle génération. La parole de Dieu dit « Isaac donna les mêmes noms que son père avait donné au puits ». Le mot « péché » ou « repentance » écorcherait-il la bouche de certains prédicateurs aujourd'hui ? Et les mots « conversion », »,« consécration », »,« sanctification », »,« obéissance », »,« baptême du Saint-Esprit », »,« prière », »,« jeûne », qu'en est-il de tout cela ? Aujourd'hui, dans bon nombre d'églises, il n'y a plus de problème à se faire accompagner par un membre de famille ou un ami inconverti, puisqu'ils ne seront ni embarrassés ni confrontés à l'idée du péché. Les charbons de l'autel de Dieu ne viendront pas brûler leur conscience, pas plus que les traits enflammés des prédications ne les convaincront de péché et ne les pousseront à se mettre à genoux aux pieds de Jésus. Aucun doigt prophétique ne fera résonner dans leur cœur ce message que David, tombé dans le péché, a entendu de Nathan, tuait cet homme-là. Frères et sœurs, débarrassons nos puits de la poussière d'un monde impie et hostile, mais je dirais aussi, débarrassons-les de la poussière d'un monde religieux apostat, d'une église qui est en train de sombrer dans l'apostasie. Crions à Dieu pour que l'église creuse à nouveau les puits de ses pères et connaisse l'action toute-puissante et irrésistible du Saint-Esprit. Prions pour que les ministères au sein du peuple de Dieu soient à nouveau des ministères de feu, des brasiers prophétiques pouvant enflammer même une nation entière. Entendons la parole de l'Éternel. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Jérémie chapitre 6, les versets 13 à 16. Ne réagissons pas comme ceux qui ont entendu cette parole. La Bible dit, ils répondent, nous n'y marcherons pas. Aussi Dieu ajoute, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondent, « Nous n'y serons pas attentifs. » Quelle audace! Mais je dirais aussi quelle ruine future les attendait. J'aimerais maintenant vous parler de ce qui se passe quand le renouveau vient. Après qu'il ait creusé de nouveau les puits de son père, la parole de Dieu nous dit que Isaac remonta à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Versets 23 et 24 du chapitre 26 de la Genèse. Quand le renouveau vient, premièrement, il apporte avec lui une nouvelle révélation de Dieu. C'est ce qu'Isaac a expérimenté. La parole de Dieu dit « L'Éternel lui apparut ». L'Église de Jésus-Christ devrait vivre dans un renouveau constant de l'Esprit, le Saint-Esprit, et expérimenter alors ce dont Paul parle en Éphésiens chapitre 1er verset 17, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amis chrétiens, ne désirez-vous pas une telle vie? Deuxièmement, quand vient le renouveau spirituel, Dieu réitère ses promesses. « Je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Promesse donc de sa présence et de sa communion, promesse de ses bénédictions et promesse de prospérité. Et Isaac va être ainsi fortifié, stimulé, encouragé à creuser encore. Le verset suivant nous dit « Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel. » Donc il y a une pensée sous-jacente d'adoration et de prière. « Et il y dressa sa tente. » Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Là où Dieu se trouve, là où Dieu se trouve, nous sommes assurés de pouvoir creuser. Nous y découvrirons l'eau de la vie. Troisièmement, le renouveau apporte la supériorité sur nos ennemis qui sont obligés alors de reconnaître la bénédiction de Dieu et qui tremblent. Abimélec, le roi des Philistins, est venu auprès d'Isaac avec son ami, avec le chef de son armée, et ils lui dirent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi, jure que tu ne nous feras aucun mal, tu es maintenant béni de l'Éternel. » Ce sont les versets 28 et 29. Notez au passage que ce n'est pas au milieu des ennemis et en pactisant avec eux qu'Isaac a eu de l'influence sur eux, mais c'est en se séparant d'eux. Ce sont eux qui, plus tard, sont venus vers Isaac. Et il en est ainsi du chrétien vis-à-vis du monde. La Bible dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Il y a donc bien là la pensée d'une séparation. Le chrétien est physiquement au milieu des païens, mais moralement et spirituellement loin d'eux. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Il y a donc un jour où les ennemis bouchent nos puits, et il y a un jour où, contraints de reconnaître la grâce de Dieu qui règne sur nous, ils viennent à nous. En conclusion, vous remarquez que notre chapitre se termine avec une affaire de puits, là encore. Est-ce étonnant ? Versets 32 et 33, ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et ils lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau » et il l'appela Shiba. Il n'y a rien d'étonnant à ce que ce chapitre se termine avec un puits qui est creusé avec succès. Avec Dieu, il nous faut toujours aller de l'avant. Que Dieu nous y aide tous, avec l'aide puissante du Saint-Esprit. Amen.